Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous d'Effraction, donc le cycle de rencontres littéraires qui accompagne le festival Effraction tout au long de l'année. Le festival dont la prochaine édition, la cinquième, aura lieu du 6 au 10 mars prochain. Et en préambule, on est vraiment heureux d'accueillir Mathias Sénard pour un grand entretien. Je les remercie chaleureusement d'avoir accepté cette invitation et je remercie aussi Raphaël Laris qui va mener cet entretien. Je lui laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci Monica. Bonsoir et merci d'être venue assister à cette rencontre avec Mathias Sénard, donc, qui aura trait au lien entre l'histoire et la littérature. Ça fait 20 ans et quelques mois que vous êtes entré en littérature, Mathias, puisque La perfection du tir a paru en septembre 2003. Si je ne m'abuse. Et depuis, c'est devenu presque un cliché de vous présenter comme un écrivain chez qui cohabite magistralement l'érudition et la sensibilité. Un écrivain à l'ambition immense, et c'est plus rare, aux moyens à la hauteur, dont les livres se collettent à la violence du monde et embrassent les époques. On reparlera bien sûr de La perfection du tir, de Remonter le Rénoque, du cycle oriental que constitue Zone, Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants, Rue des voleurs et Boussole, qui vous a valu le Goncourt en 2015, puis de l'épopée Poitevine qui a suivi, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. Mais on s'attardera sans doute un peu plus spécifiquement sur votre plus récent roman, Déserté, qui est paru à la rentrée littéraire 2023. Sa brièveté contraste avec l'ampleur de quelques-uns de vos textes précédents, mais ses 200 pages s'attachent à récapituler le XXe siècle et le début du XXIe à travers deux lignes narratives qui ont la grâce, même si on peut y entendre des échos, mais qui ont la grâce de ne pas se rejoindre, mais offrent une extraordinaire méditation sur la guerre et le temps. Alors il y a d'une part un personnage anonyme qui fuit un conflit en un temps et sur un territoire inconnu, et puis d'autre part un mathématicien, gloire de l'ex-TDA. de l'ex-RDA, Paul Heudebert, auquel est consacré un colloque sur deux jours de septembre 2001 qui ont marqué les mémoires. Ce sont deux histoires qui ont des rapports opposés à l'histoire. Dans un cas, faute d'éléments actuels, l'écriture en appelle à la poésie. Dans l'autre, l'archive abonde. La fille de Paul, qui est au reste historienne, permet de donner une narration qui est attentive aux détails. Et on peut y lire dans ce texte « Tous les fils de l'histoire ». Il est écrit avec un grand H, paraissent rassemblés dans une main unique. C'est peut-être ou pas une définition hénardienne du roman. Mais on va commencer par la vôtre d'histoire, Mathias, si vous le voulez bien. Alors, pour les historiens du futur, est-ce que vous avez en votre possession des témoignages, des archives de votre vocation d'écrivain dans l'enfance ou l'adolescence ?
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci, Raphaël Laris. De cette question. Alors, il se trouve que j'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance liés à. Ça dépend à quel moment on arrête l'enfance, à quel moment on passe à l'adolescence. Pour moi, l'écriture, c'est plus lié à l'adolescence, mais néanmoins, il s'est produit quelque chose il y a quelques années. Vous savez, quand vous commencez à acquérir un petit renom dans votre région d'origine et que vous retrouvez votre ville natale, qui est Niort, dans mon cas, là, je suis allé au lycée, donc dans l'ouest de la France. Vous retrouvez aussi vos instituteurs de votre petit village où vous avez grandi. Et là, un jour, une institutrice vient me dire « Ah, mais je me souviens très bien, quand tu avais 8 ans, tu disais que tu voulais devenir écrivain. » Alors, j'en ai absolument aucune idée. C'est-à-dire, c'est pas pour moi un souvenir, mais on voit pas pourquoi est-ce qu'elle inventerait ça. Aussi, plutôt, on imagine bien pourquoi elle pourrait l'inventer, puisque je le suis devenu. Moi, je me voyais plutôt dans les métiers liés à l'espace, comme beaucoup des gens de mon âge, astronaute, tout simplement pilote de navette spatiale. Mais il semble-t-il, voilà, j'avais dit ça, que l'écriture m'intéressait. Non, pour moi, écrire, ça a toujours été une espèce de une présence d'abord, à travers la lecture. J'ai plutôt commencé à être un lecteur avant d'être un écrivain. Mais oui, c'est vrai que écrivain, le nom, en tout cas la profession, devient un rêve pour moi à l'adolescence. C'est vraiment parce que ça allait avec plein de choses extrêmement passionnantes, être aussi aventurier, voyageur. Mais en même temps, j'ai toujours eu ce côté un peu rat de bibliothèque qui fait que il fallait bien assumer aussi ce côté-là. Et donc oui, mais ça, c'est, ça vient plus tard. Je pense que c'est quand j'ai 13 ans, 13, 14 ans.
Est-ce que vous avez une idée précise du moment où vous êtes aperçu qu'il y avait une collision, un point de rencontre entre l'histoire telle que vous pouviez l'apprendre dans les manuels ad hoc et la vie d'individu comme celle de votre famille?
Oui, je pense que ça, c'est vraiment un choc qui est assez jeune et qui est lié à la découverte très soudaine, quand j'ai, là pour le coup, je pense que j'ai plutôt 11 ans ou 12 ans, de l'arme de mon grand-père. Et donc mon grand-père paternel, dont je savais ça, oui, qu'il avait été militaire, soldat, professionnel, parachutiste, qu'il avait participé à, non seulement aux guerres coloniales de la France, mais même à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il avait des dizaines et des dizaines de médailles, souvenirs de ces conflits, et on jouait parfois à se déguiser avec des morceaux d'uniforme. Mais je pense que là où m'apparaît vraiment le rapport à la violence de l'histoire, au-delà des photos, je me souviens qu'il avait une photo avec, mais ça je l'ai revue depuis, avec le général de Gaulle dans le carlingue d'un avion en Algérie. Et c'est quand j'ai découvert l'arme et que je l'ai pris dans ma main minuscule, qui trouvait cet objet qui n'était pas un jouet, qui avait tout de suite vu la différence entre un jouet pour enfant, une arme, et la vérité, c'était le poids, la masse et l'odeur de la graisse, de l'huile. C'était un peu comme une odeur d'huile de machine à coudre, un peu. Et évidemment, on m'a tout de suite retiré cet objet des mains pour le cacher un peu plus loin. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait une réalité, quand même, entre les premières images de violence qu'on voyait à la télévision. Donc, je suis né en 1972. Et pour nous, c'était vraiment la guerre du Liban. 82, j'ai 10 ans, c'est à peu près à ce moment-là. Et puis la réalité de ce que je voyais dans ma famille, et des récits dont je pouvais commencer à entrevoir la réalité. Et même au-delà de ça, donc je me suis intéressé disons au rapport de mon grand-père avec la guerre, et notamment parce qu'il avait des cicatrices. Et donc je lui ai demandé, mais ces cicatrices, alors elles viennent d'où? Et il m'a dit, du combat au corps à corps. De l'Indochine. Et ça, c'était non seulement extrêmement effrayant, quand même, de se dire que voilà, il y avait des armes tranchantes, donc du coup, du combat qui avait touché de près le corps de mon grand-père. Et aussi, c'était une espèce d'intérêt, quand même. Pour les lointains, quoi. C'était l'Indochine. C'était un pays qui n'existait plus. À quoi ça ressemblait? Qu'est-ce que c'était que Hanoï, Saïgon, tous ces endroits-là où il avait passé quand même une grande partie de sa vie et où il avait rencontré ma grand-mère. Donc c'était, tout d'un coup, cette présence de l'histoire, elle était là. Elle était dans les corps, elle était dans les objets, elle était tout autour de moi. Et même il y a d'autres secrets, de famille qui m'ont été dévoilés bien plus tard, petit à petit, qui ont trait aussi à cette violence de guerre, et notamment à la guerre d'Algérie. Et tout ça fabrique un espèce de rapport immédiatement entre l'intime, le sensible et l'histoire, pensais-je.
Vous avez eu 18 ans en 1990, qui est l'année où a été décrétée, si je ne m'abuse, dans un célèbre essai de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire. Oui. C'était celle de la fin de la guerre froide. Est-ce que vous croyez que ça raconte quelque chose de l'environnement où vous avez accédé à l'âge adulte?
Non, cette fin de l'histoire, je ne pense pas que ce soit un grand moment de la pensée.
Oui, mais c'était un slogan qui était partout.
C'était un slogan qui était très important. Pourquoi ? Parce que bah, c'est sûr que cette, cette fin d'un bloc, c'était... Alors moi, je me souviens bien, à ce moment-là, bon, justement, j'ai 18 ans. Moi, ma première langue à l'école, c'était l'allemand. J'ai fait beaucoup d'échanges en Allemagne, et notamment dans une petite ville qui est vraiment à la frontière entre la RFA de l'époque et la RDA. Une ville qui s'appelle Coburg. Et on nous emmenait, c'était une excursion avec nos correspondants allemands, visiter la frontière. Alors vous vous dites, mais comment est-ce qu'on peut visiter une frontière ? Une frontière, c'est une ligne, ça ne se visite pas. Bien si, il y avait des tours organisés justement pour les écoles où on visitait les installations donc de la frontière, c'est-à-dire non seulement les tours d'observation, le No Man's Land, enfin pour sa partie bien sûr RFA, on parlait avec les gardes frontières de l'Allemagne de l'Ouest et on mangeait dans leur cantine et ils nous accueillaient et puis voilà, on pouvait faire un tour visite de la frontière. Donc pour nous, c'était vraiment, il y avait une réalité dans ce, et on nous expliquait que s'ils observaient, c'était surtout voilà au cas où il y avait des réfugiés qui tant bien que mal essayaient de franchir depuis l'est et qui se blessaient soit sur les mines, soit parce qu'on leur tirait dessus depuis l'Allemagne de l'Est, pour pouvoir être là pour les secourir. Ce qui était un discours de propagande un peu. Mais voilà, qui était très 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 répandu à l'époque. Et donc quand le mur tombe en 89, cet été-là, je vais en Allemagne. Je retourne à Coburg parce que j'ai un excellent ami que j'ai conservé jusqu'à aujourd'hui qui m'y emmène et on allemand donc et on décide d'aller en Allemagne de l'Est. Et donc lui, c'était son premier voyage dans ce qui avait été tout le temps de sa jeunesse et de son enfance, le territoire qui était à quelques kilomètres de chez lui et qu'il ne connaissait pas plus que moi. Et puis c'est assez... Alors il y avait des légendes. À l'époque, on vous disait, oh là là, vous allez avoir mal à la tête, parce que c'est très pollué, tout ça. Donc vous allez avoir très très mal à la tête à cause de leur fameux moteur deux temps, de... Bref, bon, énormément de... Et puis on s'est rendu compte que voilà, bon, la campagne d'abord ressemblait, était même franchement la même que celle qu'il y avait de l'autre côté de cette fameuse ligne de frontière. Et puis c'est vrai que les villes étaient beaucoup plus noires, comme Leipzig à l'époque, qui avait été un peu le cœur de la révolution en Allemagne de l'Est, était encore une ville noire de charbon et qui a beaucoup beaucoup changé depuis. Mais néanmoins, bon, il y avait une espèce de naturel de passer de l'un à l'autre. Et cette idée que, puisqu'une idéologie s'effondrait, un mode de gouvernement, d'ailleurs, puisqu'une idéologie disparaissait, qui était automatiquement absorbée par l'entité voisine, on avait du mal à se dire, mais pourquoi est-ce que cela constituerait une forme de fin de l'histoire ? Qu'est-ce qui... Et très vite, évidemment. Alors c'est vrai qu'il y avait aussi un peu, par exemple, à ce moment-là, qui me touchait peut-être plus, la fin aussi de la guerre du Liban, de la première guerre du Liban, les accords de Taïf, mettre fin aux violences sur le territoire libanais pendant plus de 10 ans. Mais très vite vient tout simplement la guerre en Yougoslavie. Et ça, c'est à peu près... C'est presque concomitant, hein. Il n'y a que 2 ans d'écart entre les deux. Et donc on voyait là plutôt l'histoire en marche, plutôt qu'une certaine fin de l'histoire où tout se serait arrêté dans le bonheur de la célébration de la victoire capitaliste. On voit bien qu'au contraire, disons la déliquescence de ces régimes socialistes, appelons-les comme on veut, se passe pas forcément toujours le mieux du monde. Donc oui, ça, pour moi, c'est un moment... c'est ça, entre le moment où j'ai 18 et 20 ans, ça fait partie vraiment Oui, de ce que je vois au quotidien, oui.
Alors, de ce que vous me dites sur cette fréquentation adolescente de l'Allemagne et de cette frontière, on sent du coup que les graines de déserté qui ont été plantées il y a très très longtemps, puisque donc déserté se passe en partie, a beaucoup trait à l'histoire de l'ex-RDA. Mais les deux autres événements dont vous parlez, la fin de la guerre du Liban et le début de la guerre en ex-Yougoslavie, c'est aussi le sujet de votre premier roman, qui est La perfection du tir, qui est donc ce monologue d'un tireur d'élite qui ne se remet pas d'avoir tué, qui ne s'en remet pas même libidinalement, quoi. C'est une espèce de mode d'existence. Et ce texte-là naît de cette double, à la fois du Liban et du souvenir de.
Non, il n'y a pas de Yougoslavie à l'époque, je ne connais pas. C'est vraiment le Liban. D'ailleurs, j'écris une grande partie de la première version du texte à Beyrouth. Où je réside à l'époque. Pour moi, la perfection du tir, même si j'ai enlevé tout à fait consciemment tous les noms propres, c'est vraiment Beyrouth. Tous les gens qui connaissent un peu Beyrouth, qui lisent le livre, reconnaissent immédiatement la ville. Pourquoi est-ce que j'ai retiré toutes les allusions très précises à la guerre du Liban, justement pour pas être tenu par l'histoire, c'est-à-dire pour pouvoir m'éloigner un peu de la réalité historique de ce conflit qui a quand même duré plus de 20 ans et donc pour pouvoir en fait être plus libre dans la narration. C'était un parti pris que j'avais à l'époque. Je pensais que... D'abord, je croyais qu'il fallait... puisque j'étais tout à fait conscient de ce qu'était l'histoire et l'écriture de l'histoire, que le roman devait s'en éloigner, que le roman, la fiction, devait justement ne surtout pas rentrer dans les territoires de l'écriture historique. Et que donc... un roman, une fiction, c'était quand même mieux si elle était complètement dénotée et fabriquer un monde à soi, mais qui ne rentrait pas, ne rentrait pas ni en concurrence ni en collaboration avec ce que peuvent être les manuels d'histoire. Donc oui, ça a été pour moi. C'était un long processus pour arriver à l'écriture de La perfection du tir. Puisqu'au départ, tout au long des années 90, j'ai eu une espèce de première carrière un peu académique, universitaire. Et puis à un moment, justement, l'écriture universitaire me paraît trop corsetée. J'ai envie de liberté, d'imaginaire. Et c'est là que je commence à écrire ce premier texte. Donc oui, dès le départ, il y a quand même ce rapport avec le réel, même si, d'une certaine façon, dans La perfection du tir, je m'en éloigne. En tout cas, j'ai un peu l'impression de prendre mes libertés avec ce qui s'est réellement passé à Beyrouth pendant les 15 dernières années. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, si je réécrirais le livre, je remettrais les noms des endroits, les noms de villes, et puis le nom de Beyrouth, très certainement.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur cette question? Donc, alors, après, il y a deux autres livres, Monter le Rénoc et Bréviaire des Artificiers, mais il y a Zone qui arrive en 2008, qui est ce grand livre écrit d'un souffle, d'un long souffle, d'une traite, et qui, lui, plonge les deux pieds dans l'histoire. On est donc dans un train, aux côtés d'un homme qui va remettre une valise pleine de secrets au Vatican, aux archivistes de l'éternité. Et on a vraiment les deux pieds dans le sang du XXe siècle à plein.
Oui, justement, je pense que là, il s'est passé quelque chose entre les deux. Je crois plus... D'abord, à moi, ma capacité, ma possibilité réelle d'écrire des romans. Puisque quand on écrit un premier roman, si jamais ça vous arrive, on sait pas si on sait pas si on va le terminer. Vous commencez quelque chose, mais vous savez absolument pas si vous allez aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, on sait pas du tout s'il va être ni publié, ni lu, ni rien de tout ça. On peut l'espérer, mais quand on est en train de l'écrire, on est un peu solitaire, abandonné. Et donc, j'étais pas trop sûr de ma capacité à pouvoir peut-être jongler avec beaucoup de balles, comme je le fais dans Zone. Voilà. Il y a ça, je pense, une espèce de liberté, en fait. Je pense que vraiment, au fil du temps, j'ai appris un peu à me sentir de plus en plus libre avec la littérature. Et Zone, c'est vraiment un premier moment de libération. Je me dis, bah, vas-y, fais ce que t'as envie de faire. T'as envie d'écrire un roman qui se passe dans un train où il y a 1 km par page entre Milan et Rome. Bah, fais-le. Voilà. Et puis, je pense que la relation avec l'histoire, elle aussi, était devenue plus libre. Je voyais comment je pouvais, justement, par cet intermédiaire entre ressenti extrêmement physique, sensuel et réel, raconter des événements historiques, ou en tout cas les incorporer dans une espèce de grande machine à laver qui mélange à la fois des personnages complètement imaginaires, mais qui eux vont croiser à leur tour des personnages tout à fait historiques. Et ça, ça m'a pris du temps avant d'y parvenir, ouais, cette liberté-là.
Parce que, alors, Zone vous vaut le surnom de James Joyce Poitevin, disons. Et Joyce est l'auteur de cette phrase « L'histoire est un cauchemar dont je cherche à me réveiller ». Enfin, c'est Dédalus qui dit ça. Vous positionnez comment par rapport à cette phrase et comment vous l'interprétez ?
Alors, James Joyce a visité Niort, figurez-vous. Pour ceux qui ne savent pas, Joyce a même écrit un poème dans lequel il est question de Niort.
Autant pour Michel Houellebecq.
Voilà. Et un poème qui est une parodie du Wasteland de T.S. Eliot, assez drôle. Où évidemment, il pleut tout le temps à Niort. Bref, je ne sais pas si c'est très loin de ce que pense Michel Houellebecq de Niort, mais en tout cas, il y a ça. Non, l'histoire, c'est un cauchemar. Oui et non, c'est-à-dire que c'est très difficile, on ne peut pas juger. L'histoire, c'est un récit, voilà, tout simplement. Et le récit de nos malheurs, le récit de nos bonheurs, le récit de ce que nous avons été, de quelle façon, comment, des sociétés humaines, de la planète, de l'histoire de choses qu'on penserait aussi à historique que les couleurs, par exemple, que voilà. L'histoire, c'est le fait de raconter. S'il n'y a pas d'histoire sans récit. Donc moi, je le vois pas vraiment comme un cauchemar, même si ce sont les hommes qui c'est ce qui se passe au quotidien. Hein, c'est plutôt le journalisme qui est un cauchemar, si on va par là. L'histoire, non. L'histoire fait le récit toutes ces atrocités, mais pas exclusivement, bien sûr.
Et nonobstant, dans Zone, on lit cette phrase, alors peut-être que vous n'êtes pas Francis qui l'a dit, qui est « L'histoire est un conte de bêtes féroces, un livre avec des loups à chaque page ».
Ça, c'est vrai, oui. Non, mais justement, c'est un récit, c'est un livre. Et oui, des bêtes tout à fait féroces, et des loups, et des monstres, c'est vrai. Mais c'est toujours... vous voyez, il y a des gens dans les années, en 1990, on vient d'en parler, qui se disaient oh, c'est la fin de l'histoire, le bonheur pour tous, capitalisme triomphant, on va tous être beaux et riches. Et non. Et puis on s'aperçoit que finalement, depuis des siècles, l'humanité cherche à se débarrasser du fléau de la guerre, par exemple. Or, on arrivera très certainement à se débarrasser de la maladie beaucoup plus facilement que du fléau de la guerre, finalement. On arrive beaucoup plus simplement aujourd'hui à combattre une épidémie mondiale qu'un conflit entre deux nations. Donc l'histoire bah, raconte ça, raconte que oui, en 1345, on a été balayé, et la moitié de la population européenne avec elle, par la peste. Et que, mais aussi, voilà, qu'on a écrit des romans, des poèmes, des histoires de chevaliers. Et aujourd'hui, on fait exactement la même chose. L'histoire fait le récit et dit, malheureusement, constate que peut-être que pour l'humanité, l'état naturel n'est pas la paix, mais la guerre. C'est probable. Si on faisait une immense histoire, on verrait que les périodes de paix sont bien plus courtes que celles de guerre, par exemple. Hein, que, voilà, quelque part dans le monde, il y a toujours des gens qui s'entretuent avec un plaisir plus ou moins dissimulé, d'ailleurs, chez eux, selon les endroits et les moments. Mais c'est une réalité. Donc oui, c'est vrai qu'en ce sens, l'histoire est un peu un livre où il y a des monstres à chaque page, mais ce n'est pas forcément la faute de l'histoire.
Azone succède par le leur de roi de bataille d'éléphants. Et puis, il y a Rue des voleurs. Attendez, j'en oublie un. Avant Boussole, non, j'ai un...
ça. Nicole, non, c'est ça.
Non, c'est ça.
2010, par le leur de bataille. 2012, Rue des voleurs.
2015, Boussole.
2015, Boussole.
Vous les avez conçus ensemble, plus ou moins, comme un grand cycle.
Pas du tout.
Non. C'est en faisant. Oui. Vous constatez que vous avez un cycle oriental.
Ah oui.
Vous
constatez, non, je le constate, mais a posteriori, mais j'ai pas pensé avant. Non, c'était pas pensé comme tel, en tout cas. Mais oui, ça s'est avéré. Après, il y a dans Boussole un peu cette espèce de double regard, à la fois orientaliste, très, très historique, comme le petit livre sur Michel-Ange.
Qui est par le rôle de bataille
de roi et d'éléphant, qui a une vision là assez, alors c'est pas idyllique, mais quand même assez belle de ce que peut être les rencontres et l'humanité par moment, et l'art et la beauté. On n'est jamais très loin du meurtre quand même, mais avec un ton extrêmement, tout à fait conscient, extrêmement orientaliste. Et puis Boussole, qui prend un peu de la distance avec ce type de récit et montre un peu, voilà, comment est-ce qu'ils ont été construits, qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette aventure du regard orientaliste, de quelle façon est-ce qu'on a cherché à le déconstruire, comment cette déconstruction n'a jamais été vraiment possible à cause de la domination coloniale. En gros, voilà le récit de Boussole. Et donc oui, c'est vrai que ces récits sont liés aussi à Rue des voleurs. Pourquoi ? Parce que le principe de Rue des voleurs, c'était de raconter l'année 2011 pratiquement en direct. Le livre est publié en 2012 et j'arrête d'écrire, je crois, au printemps 2012.
Donc 2011, qui était l'année du petit Jésus de l'actualité, printemps arabe.
Voilà, exactement, printemps arabe. Mais aussi, j'habite à Barcelone et il s'est passé aussi à Barcelone des événements politiques extrêmement importants. Une forme de micro-révolution à l'échelle de la ville dans le mouvement qu'on a appelé le mouvement des indignés. Et la coïncidence dans le temps entre ces deux mouvements, ce qui se passait dans le monde arabe et ce qui se passait en Espagne, même si ce n'était pas du tout lié, mais avait pourtant des rapports générationnels. C'est vrai que ça, c'était les mêmes, les gens du même âge qui participaient à ces mouvements et avec des destins comme l'autre extrêmement, extrêmement différents. Ça m'a tout de suite frappé. Je me suis dit, mais voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un mouvement, justement, qui viendrait du sud vers le nord? Et donc un voyage, et donc le voyage de ce jeune Lardar qui va depuis Tanger jusqu'à Barcelone, en portant avec lui aussi un peu, voilà, des espoirs de ce que pouvait être une forme de jeunesse arabe, entre guillemets, dont on a vu et on voit aujourd'hui très tristement, 12 ans après, que, bien évidemment, toutes ces révolutions n'ont pas donné grand-chose, à part des déceptions. Et là aussi, Boussole se fait un peu l'observateur, le roman en tout cas, observe cela, déjà quelques années plus tard, au milieu, on va dire, de la guerre civile en Syrie et des différents effondrements qui ont eu lieu dans le monde arabe depuis l'année 2010-2011. Donc, mais ça, je peux le dire maintenant, évidemment, à l'époque, j'en étais pas du tout conscient. Il y a quelque chose comme ça de commun dans ces trois livres, oui, vous avez tout à fait raison.
Et vous voyez comment on va de l'un à l'autre ?
On, qui ?
Vous.
Ah, moi. Parce que pour le lecteur, je pense que c'est autre chose. Le lecteur, c'est vraiment trois univers très différents.
Des écritures très différentes. Trois écritures les très Alexandrins, de par le lore de Bataille de Roi et
l'Éléphant. Vous êtes très renseigné. Et oui, oui, c'est très, très différent. Mais même moi, je pense qu'au moment où je les écris, je me rends pas compte qu'il y a comme ça, voilà, quelque chose qui me fait passer de l'un à l'autre, en fait. Pourquoi ? Parce que les projets se chevauchent très souvent. C'est-à-dire que Boussole, je l'avais commencé sans doute avant. Non, c'est sûr. Avant de commencer Rue des voleurs, Parleur de bataille avait été commencé en même temps pendant que j'écrivais Zone, puisque c'est au moment où je suis en train d'écrire Zone que je découvre cette histoire de la visite, possible visite de Michel-Ange à Istanbul. Bref, donc les livres pour moi se chevauchent toujours un peu. Et ils ne sont pas des conséquences directes, mais ils peuvent voilà, être superposés dans le temps pendant pas mal de temps. Ouais. Puisque le premier livre que je commence après Zone, en réalité, c'est Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs.
Qui, pour le coup, est paru en 2020.
Pour le coup, est paru en 2020, oui. Voilà. Donc il y a quand même ouais, des moments de chevauchement assez importants. Donc j'ai du mal à voir si, pour moi, il y avait des rapports, de quelle nature est-ce qu'ils étaient entre les différentes écritures des livres.
Alors quand vous avez des projets concurrents comme ça en chantier, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui emporte le morceau et qui devient le texte en cours ?
Je sais pas, c'est mystérieux. Ça peut être géographique, ça peut être le fait que je me trouve à tel endroit et que je me lance. Ça peut être ouais, une question du temps, ça peut être ce qui se passe autour de moi. Je saurais pas dire en fait, je saurais pas dire. Je ne sais pas, c'est comment on fait avancer des... Qu'est-ce qu'on pourrait faire avancer ? Une espèce de course d'escargot, là, on en aurait plusieurs. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y en a un qui va plus vite que les autres vers la salade, quoi, en gros. C'est un peu ça.
Autrement connu comme le prix Goncourt.
Autrement connu, voilà. Exactement, voilà. Okay. Tout ça, ce sont des histoires d'escargot. Oui, je ne saurais pas dire pourquoi... À part certaines circonstances très précises, ce qui fait que je me retrouve, par exemple, à avoir, je sais pas, 2 mois devant moi dans un endroit Z, et que je me dis, tiens, ben là, je vais avancer ça. Voilà. Mais c'est sûr que ça, si j'étais un peu plus attentif à moi-même, et il y a sans doute des espèces de vagues liées à ce qui se passe autour de moi, à ce qui m'importe, ce qui me touche, qui font que je me dise non, il faut que j'avance là. C'est possible.
Parce que le côté crépusculaire de Boussole, enfin alors c'est pas crépusculaire puisque c'est nocturne, mais disons qu'il y a quelque chose d'une fin qui dans une atmosphère. Comme ça, d'une chose qui se termine, qui imbibe l'écriture et la voix de Franz dans Boussole. Ça n'a pas à voir avec le fait que ça serait la fin de ce cycle orientalisant.
Non, je crois pas.
C'est informé par le désespoir de l'homme qui a vu la Syrie s'embraser.
Ah, si, voilà. Ça oui. Ça, ça oui,
c'est
oui plus, bien sûr.
C'est ça.
Oui, oui. Ça, c'est clairement ça. C'est vraiment Boussole, c'est vraiment pour moi, le moment de la tristesse de la guerre civile syrienne, qui est quelque chose qui est là, tellement horrible qu'on ne veut même pas regarder vraiment en face. De toute façon, on ne peut pas y aller. On voit revenir les débris humains, presque, hein, les gens qui fuient, qui s'en vont, qui se retrouvent tous, pour beaucoup en Allemagne. À l'époque, je suis à Berlin, donc on accueille beaucoup de réfugiés syriens, des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. Et donc oui, Bruxelles, c'est un peu aussi ça, c'est ces moments extrêmement dramatiques de l'histoire de la Syrie, qui continue à être un pays détruit dans une situation terrible, et encore rien n'est résolu au nord-ouest de la Syrie. Bref, c'est une situation atroce, mais dans un espèce de statu quo, dans lequel rien ne bouge vraiment, à part justement un ou deux obus au nord-ouest de temps en temps. Et un ou deux missiles israéliens, je ne sais pas trop, qui visent à part les Iraniens. Donc c'est un... Mais je parle de ça parce que j'ai recommencé, vous allez dire, oh, il a recommencé, un livre qui serait plutôt arabe. J'ai envie de retourner au Moyen-Orient par l'écriture et de m'intéresser à... Bon, alors c'est un projet très ambitieux. C'est raconter un peu l'histoire de l'Est du monde arabe, mais pas que l'Est, essayer d'être un peu exhaustif sur le monde arabe entre les années 50 et aujourd'hui. Et c'est-à-dire 70 ans à peu près de monde arabe, ce qui s'est passé, justement, tous les espoirs politiques déçus les uns après les autres. Mais essayer de comprendre un peu pourquoi et comment, mais depuis le niveau le plus humain et le plus sensible.
Je n'ai pas mentionné un texte un livre qui paraît en 2013, Tout sera oublié, une BD que vous avez faite avec Pierre Marques, qui a pour décor Sarajevo, qui nous dit que les souffrances d'hier n'existent que dans les mémoires des hommes et qu'elles vont passer à la trappe.
Ça, je pense qu'on est justement dans un de ces moments-là, de disparition d'une génération. La génération qui a vécu toute la première moitié du XXe siècle, y compris la Deuxième Guerre mondiale, qui est un peu une fracture entre première et deuxième moitié, s'est éteinte, ou presque. Et la génération qui est en train là, de commencer à disparaître, c'est celle de ceux qui ont entendu, qui ont connu les témoins. Et là, on passe encore à autre chose, c'est-à-dire de ceux qui... l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, qui a tué la femme du facteur, comme dirait Jean Rollin. Hein, nous, on commence à s'éloigner dans le temps et à avoir une autre distance, un autre rapport avec ces événements et ces générations-là. Donc il y a toujours des moments comme ça de basculement qui sont assez terribles. Mais on voit là, par exemple, on le voit pour les commémorations. Commémorer, c'est le moment justement où officiellement l'État compte et vous dit nous n'avons plus d'anciens combattants. Je me souviens très bien de la. J'avais écrit un papier à l'époque pour un journal serbe sur la mort du dernier poilu. Donc on avait su, c'est le dernier. Et c'est assez étrange de se dire ça, non ? C'est le premier homme et dont on se souviendra. Pourquoi ? Parce qu'il a été le dernier à mourir parmi ceux qui ont souffert et qui ont combattu dans la Première Guerre mondiale. Et. Donc on sait que cette génération n'existe plus, enfin en tout cas ceux qui ont connu vraiment la Première Guerre mondiale a disparu. Et ainsi de suite pour la Deuxième. Alors il en reste encore quelques-uns, on les compte à chaque fois. Et puis on avance toujours terriblement vers le à la fois la perte et en même temps le souvenir. Et tout ça reste exclusivement dans les livres et dans les récits qu'on en fait. Vous avez dit cette mémoire des hommes. Et moi, des humains aussi. Hein, parce que...
On ne sait pas si c'est une promesse ou une menace, ce tout sera oublié, qui résonne d'une certaine manière avec une phrase de déserté où le soldat anonyme adresse à Dieu une prière, notre Père, donnez-nous aujourd'hui notre oubli quotidien.
Oui, c'est vrai, c'est certain que malheureusement, tout sera oublié petit à petit. En tout cas, on le voit bien. Qu'est-ce qui... Il y a des grandes époques comme ça, entièrement vides de souvenirs pour nous au quotidien. On avance. Et puis le temps nous pousse aussi à l'oubli. Voilà, tout simplement, les maisons s'effondrent, les cataclysmes... le changement climatique, tout ça, c'est des choses qui nous préoccupent peut-être plus, et à raison, que tous ces, ces milliards d'hommes qui nous ont précédés. Parce qu'il y a quelque chose d'assez troublant. Je ne sais pas si vous avez posé cette question. C'est combien d'hommes sont passés sur la Terre, d'êtres humains, hommes et femmes. Combien sont-ils? Combien sommes-nous, en fait? Combien de destins? Et est-ce que les morts sont plus nombreux que les vivants? Alors ça, on peut le calculer mathématiquement, c'est une sorte d'intégrale, on va dire, de la fonction mort qui amène monsieur ou madame machin de vie à trépas. Et on compte, et on se rend compte que les morts sont bien plus nombreux que les vivants. Mais personne ne se souvient évidemment d'assume hein, le récit de toutes ces existences et de tous ceux qui sont passés sur cette terre. Et c'est un peu aussi, c'est un des projets en tout cas de la littérature, de raconter voilà tout cela et que ce soit accessible quelque part pour celui qui a envie de savoir. Presque on pourrait faire un répertoire par un nom, essayer de reconstituer
Borgésien en diable, un truc.
Alors Borgésien, ce serait si on inventait les noms en disant tous les noms sont possibles, on va tous les inventer. Non, ça ce serait plutôt reconstituer une forme de tour de Babel où il y aurait une seule langue qui serait ce serait juste le nom de ceux qui sont passés sur Terre.
Vous nous avez parlé de votre... Donc là, on découvre un peu votre passion des mathématiques. Si on n'a pas lu Déserté ou Elle éclate au grand jour.
C'est vrai. Oui.
Ouais, c'est une passion.
Pas une passion, non. C'est une façon. Je sais pas. C'est un intérêt. J'aime bien les mathématiques. Ça m'intéresse. C'est une vision aussi du monde. C'est une construction humaine qui est à la fois justement, elle est intérieure et extérieure. Elle est abstraite et concrète. Les mathématiques, c'est à la fois ce qu'on pourrait dire quelque chose d'abstrait, qui n'a pas de réalité tangible, et qui en même temps a un effet tout à fait réel hein, sur ce que l'on voit. Le mieux pour se rendre compte de ça, c'est de se dire bon, est-ce que j'arrive à dessiner un cercle? En fait, vous n'y arrivez pas. On n'y arrive pas. Hein, avec un cercle parfait, on n'y arrive pas, il y a toujours. Bon. Pourtant, le cercle, il existe dans nos têtes, il existe dans sa réalité mathématique, il a une réalité, il existe. Et donc, les mathématiques sont à la fois un outil pour d'autres sciences, mais aussi une construction en soi, qui est un peu voilà, notre rapport, un rapport qu'on pourrait avoir presque parfait, rêvé, avec le monde.
Le contraire de l'histoire.
Non, ça va avec. Oui, le contraire au sens. Non, parce qu'il y a aussi une histoire des mathématiques.
C'est une sorte d'utopie.
C'est vrai que c'est un espace utopique. C'est un espace aussi universel. C'est-à-dire que toutes les civilisations ont compté, toutes les civilisations sont intéressées aux mathématiques, elles ont toutes progressé. C'est un monde de partage. Il n'y a pas de brevet en mathématiques. Vous n'êtes pas dit, tiens, est-ce qu'on donne de l'argent à M. Thalès parce qu'on utilise son théorème? Non. Hein. Il a donné son théorème et puis voilà. Donc c'est aussi un monde voilà, qui a une certaine générosité. Après, les mathématiciens ne sont pas forcément tous des gens très généreux, mais néanmoins, voilà, il y a ce partage. Cette vision du monde qui, moi, me passionne. Je trouve que c'est beau, ça.
Vous parliez de ce qui nous était antérieur. Et on peut se dire qu'au fond, le sujet de déserter, ça, on pourrait le résumer comme comment on organise la mémoire? Qu'est-ce qu'on fait des traces? Est-ce que ça vous irait, ça, comme pitch?
Oui, tout à fait. C'est certain, le projet du livre, le premier moment où il m'apparaît, c'est de me dire comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire du XXe siècle d'une façon extrêmement simple. Pratiquement, genre, le XXe siècle pour les nuls. Trois histoires très évidentes, faciles à raconter de ce qu'a été voilà, ce siècle vu d'aujourd'hui. Vu de 2020 ou 2022. Et Donc je me suis dit, voilà, il faut que je trouve un moment, une façon de raconter, de revenir en arrière, de revenir encore en arrière. Et c'est vrai que cette question de ce qui reste, finalement, des traces, de l'évolution, de ce qui a passé, les sources, en fait. Hein, j'aime beaucoup ces mots qu'emploient les historiens quand ils disent on a des sources, on utilise des sources. Pourquoi ? Parce qu'une source, c'est aussi quelque chose d'extrêmement beau, qui chante, qui coule comme ça. C'est pas forcément un vieux papier dans un carton. Oui, c'est aussi un vieux papier dans un carton, mais ça vient de la nature. C'est quelque chose qui jaillit. Et donc, oui, je voulais qu'on touche un peu les sources. Et donc, c'est pour ça que le personnage d'Irina, qui est celle qui nous raconte l'histoire de ses parents, principalement, qui est un peu notre guide dans le livre, elle utilise les sources qu'elle a à sa portée. Et ces sources, pour faire son histoire à elle de ce XXe siècle, c'est la correspondance entre ses parents.
Que vous avez eu beaucoup de plaisir à écrire, non ?
Oui, c'est vrai. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette correspondance. Donc entre un mathématicien est-allemand et une politicienne de l'Allemagne de l'Ouest, raconter cette histoire d'amour, écrire une correspondance amoureuse qui va donc depuis les années 1930 jusque dans les années 90. Donc, qui couvre pas tout le siècle, mais quand même une grande partie du siècle. Et pourquoi ? Parce que écrire cette correspondance, c'était se dire, mais comment est-ce qu'on écrit une lettre d'amour quand on a 18 ans, quand on en a 20, quand on en a 30, quand on en a 50, quand on en a 60 ? C'est évidemment des moments différents. Et moi, il fallait que je me pose cette question, voilà, comment est-ce que Paul Hudberg, ce personnage, pouvait écrire quand il avait 20 ans? Qu'est-ce que ça a à voir avec la façon dont il écrira plus tard? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa passion des mathématiques, avec son amour pour cette femme qu'il vénère? Et comment est-ce qu'on peut transcrire ça par l'écriture? Ça, c'était assez passionnant à faire.
Vous le disiez, on aperçoit l'éclatement, le début de la guerre en Ukraine dans Déserté, mais elle s'est produite alors que vous étiez déjà en train d'écrire le livre, je crois. Elle est venue percuter l'écriture. De quelle manière elle l'a transformée ?
Après, ça peut paraître un peu... un peu idiot de dire ça, mais ça a vraiment tout changé, parce que justement ce retour de la guerre en Europe est dans des termes extrêmement liés justement au XXe siècle, c'est-à-dire que Vladimir Poutine parle toujours de dénazification de l'Ukraine. Hein. C'est-à-dire que on retourne aux nazis 80 ans avant, cette image... des nazis, de dénazifier, tous ces mots qui ont été tellement employés par l'Union soviétique, survit encore en 2020 dans les mots de celui qui est un des chefs d'État les plus puissants du monde. Donc ça, il y a quand même une certaine... moi, ça m'a vraiment frappé, quoi. La persistance dans le discours de ces questions liées au XXe siècle. Et puis que... la Russie d'aujourd'hui envahisse un pays pour dans une guerre de conquête d'un pays qui avait fait partie pendant 70 ans ou 80 ans de l'Empire soviétique, pour le dire ainsi, c'est pas rien. Et pourtant, ça me choque en me disant... Jusqu'au dernier moment, je me dis, c'est pas possible. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à vraiment...
Jusqu'au 23 février.
Voilà, exactement. Je me dis, non, il va pas le faire. Alors que pourtant, moi-même, j'avais écrit dans un livre antérieur que, bien sûr, la Russie allait essayer de reconquérir un à un les éléments de l'Empire perdu.
Et c'est seulement maintenant que vous vous en vantez.
Oui,
de cette préscience.
Mais j'y croyais pas vraiment. Je me dis, oui, évidemment, on sent bien que c'est ça le désir poutinien, on va dire, pour le dire de façon comme ça. Mais j'étais naïvement persuadé qu'il ne le ferait pas. Alors que pourtant, il y avait déjà des exemples qui montraient que c'était possible. Bref. Et Et puis, c'est pour moi, c'est une déflagration, vraiment, de me dire, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, même pour un livre qui essaye de raconter le XXe siècle, où est la guerre? Et on voit tout de suite, dans la guerre en Ukraine, ce rapport qu'il y a avec les autres conflits du XXe siècle, donc sur le plan idéologique, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur le plan purement militaire et technique, avec la Première, notamment ces histoires de tranchées, de lignes de front, de l'arrière, bref. Et là, je me dis, mais ce qui manque réellement à mon récit, à mon histoire du XXe siècle, c'est l'expérience sensible de la guerre. C'est vraiment le destin, on va dire, des corps, quoi. Hein, ce qui reste, justement, sur le corps de mon grand-père, pour le dire d'une façon un peu imagée, quoi. Et c'est là que je pense qu'il faut, disons, pas moduler, mais en tout cas rajouter à cette histoire du XXe siècle quelque chose qui soit pas historique, qui soit au contraire une façon d'essayer d'attraper un peu l'éternité de ce que c'est qu'une possibilité de se débarrasser de la violence de guerre, quoi. Voilà, un peu.
Donc en se débarrassant de ses vêtements de manière directe, ouais. ce que fait le soldat déserteur, voilà, qui en fait ça, vraiment se débarrasse de tout, déserte un présent et toute trace qu'il pourrait avoir sur lui.
Oui, puis même voilà, on enlève, on ne sait pas où on se trouve, on ne sait pas quand, on reconnaît juste comme ça un peu les paysages méditerranéens et on essaye de laisser la guerre derrière soi. Et on conserve juste un fusil et toute cette partie-là du livre cherche à voir de quelle façon c'est possible de laisser la guerre derrière soi, qu'on soit un ancien soldat ou une victime de guerre.
Alors, ce sera mon avant-dernière question, et puis après, on passera à celle de la salle. Mais donc, on lit dans Déserté ce qui donne le titre de cette rencontre, qui est « Tous les fils de l'histoire paraissent rassemblés dans une main unique ». Alors, est-ce que c'est une métaphore officielle et très consciente du roman ? Est-ce que...
C'est un moment, pour moi, c'est vraiment un moment du roman. Il y a des moments, c'est ce qu'on appelait en histoire autrefois les moments tournants. C'est-à-dire où on a l'impression comme ça qu'il y a une concordance, tout un ensemble de séries causales qui semblent aller dans un sens, qui pourraient laisser croire presque qu'il y a un sens à l'histoire, quoi. Comme si réellement il y avait un moment où tout se croise, où tout le monde attend et où tout se dénoue dans un... généralement dans une catastrophe absolue.
La double page sur la montée des périls dans les livres de Terminal.
Voilà, exactement. Ouais. Tout à fait. Et là, on peut avoir cette sensation-là. Et oui, il y a un moment où ça peut être aussi une forme de métaphore du roman. Si je croyais que le roman était vraiment une forme de toute puissance, ce que je ne crois pas du tout, on pourrait dire quelque chose comme ça. Mais non, moi, c'est plutôt ce qui me passionne, c'est ces moments, voilà, où il y a des espèces de séries causales qui se retrouvent, et puis on ne sait pas pourquoi. Et là, très précisément, c'est le 11 septembre. C'est-à-dire, à ce moment-là, personne ne sait, quand on est encore chez nous le 11 septembre en Europe, avant 13h, heure de Paris ou de Barcelone, personne ne sait que le monde ne sera plus jamais le même à 13h30. Et donc, le 11 septembre, il se trouve que moi, j'étais à Barcelone, tout le monde se souvient. Hein, même ceux qui n'étaient pas nés connaissent les images. Et là, on comprend qu'il s'est passé quelque chose pendant les 20 dernières années où, justement, on a pensé que l'histoire s'était arrêtée. Et là, on comprend qu'il y a quelque chose de souterrain qui a eu lieu sans qu'on s'en soit aperçu, une espèce de rivière souterraine très noire qui débouche comme ça sur cette explosion où ce capitalisme triomphant qui disait ça y est, c'est fini l'histoire, on a gagné, se retrouve attaqué en plein cœur et blessé d'une façon très très puissante. Et ça va changer complètement, bien sûr très directement, la vie de millions de personnes au Moyen-Orient, du jour au lendemain, mais aussi chez nous. Et puis ça va changer justement notre idée de ce qu'est l'histoire. Et c'est le début du XXIe siècle. Voilà. Donc il y a ce moment-là. Et puis il y a un colloque de mathématiques sur un bateau de croisière à Berlin.
À marée.
Hein, qui finalement est annulé à cause de cet événement. Donc voilà, on voit aussi un peu toutes ces répercussions de ces événements qui sont liés aussi à une transformation du monde qui fait qu'il y a un peu une immédiateté dans les faits, qui est aussi quelque chose de nouveau, en fait.
Alors, on a parlé des traces, et sans doute est-il un petit peu tôt pour évoquer cette question-là. Enfin, néanmoins, la postérité, puisqu'on parle de l'histoire, la postérité, est-ce que c'est un sujet qui vous travaille, même dans le secret de votre âme ?
Ma postérité.
Celle de votre œuvre, on en est là.
Non, j'y pense pas, non. Non, alors je sais que j'ai des camarades, même pour certains des amis, qui préparent leur œuvre posthume un peu secrètement. Ils ont un tiroir dans lequel ils disent « Ah, ça c'est pas mal, je vais le mettre dans mon œuvre posthume ». J'ai pas encore cette passion, mais ça viendra peut-être, hein, pourquoi pas, il y a un moment, il faut y penser. Mais j'en connais même qui font des règlements notariaux, des actes notariés pour... régler leur postérité littéraire et dire qui devra s'occuper de prendre telle ou telle décision. Donc ça existe. Non, c'est pas encore mon cas.
À 52 ans et quelques jours.
Je vis au jour le jour. Je peux tout à fait mourir demain, c'est arrivé à des gens très bien, mais voilà, je ne pense pas du tout à cette postérité-là, non. Pas encore.
Merci beaucoup, Mathias.
Si vous voulez diriger mon musée...
On en parlera après. Si vous avez des questions, il y a un micro. N'hésitez pas à vous en saisir.
Merci. Merci pour cet entretien. Alors, je ne suis pas très doué pour poser la question, mais il y a plusieurs qui me viennent à l'esprit. Sur la dernière que Mme Lyris vous a posée, envisagez-vous de léguer vos documents à la BNF ? C'est-à-dire tout ce que vous utilisez pour écrire vos romans. J'aime bien aller à la BNF, voir ce qui se passe. C'est fantastique pour sentir ce que veut dire un écrivain. Enfin, ça, c'est un point de vue très personnel. Et je trouve ça... par rapport à ce que vous avez dit comme une idée, c'est-à-dire humaniste, entre guillemets, de léguer ça pour que tout le monde puisse en bénéficier. Après, c'est un point de vue très personnel. Et sur des articles, alors je n'avais pas tout vu, c'est vrai que je me suis posé la question, et le personnage qui déserte, à un moment donné, tue. Et je me suis dit, quand il tue, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que l'instinct criminel, l'assassin, revient ? Et ça, en même temps, est-il pour protéger une femme qui fuit et qui apparemment n'était pas dans le même côté que lui.
Oui.
Donc je me suis demandé ce que ça pouvait signifier. Et sur la RDA, alors moi, j'ai vu aussi comme un espoir, parce qu'à la fois, il y a tout ce qui est raconté sur la souffrance qu'il a eu en RDA comme intellectuel, mais en même temps, dans ce que je me souviens d'avoir lu, une sorte de... une sorte d'espoir dans ce que pouvait promettre la RDA et sa compagne qui vit en Allemagne de l'Ouest est au SPD. Donc, le miroir de l'espoir. Je ne sais pas si j'ai... Je me suis posé cette question.
Oui, ben je me suis posé aussi, figurez-vous. Dans l'ordre, alors, pour ce qui est du leg, oui, pourquoi pas, je vous dis, j'y ai pas encore pensé, mais il y a des institutions qui s'occupent de ça, vraiment, il y a l'IMEC, par exemple, à Caen, l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, qui récupère énormément de documents d'écrivains qui sont consultables ensuite par les chercheurs, selon ce que décide parce qu'il y a aussi, là, il y a un temps, c'est-à-dire qu'il y a des papiers dont on souhaite qu'ils ne soient accessibles que 20 ans après la mort, bref. Et d'autres, puisqu'ils peuvent mettre en, disons, parler de personnes qui seraient encore en vie à ce moment-là. Il y a aussi la BNF qui accueille tout ça. Moi, j'avoue que je n'ai pas du tout réfléchi à ça, mais ce serait peut-être bien que je le fasse. Ce serait peut-être bien que je le fasse, d'ailleurs. Je pense que la bibliothèque de Niort peut-être serait intéressée. Voilà, exactement. Mais pour en revenir à Déserté, oui, effectivement, en fait, Déserté, c'est l'entre-deux-guerres, un peu. C'est le moment, enfin, pour celle qui est la partie du déserteur, proprement dit, il essaye de quitter la guerre, mais pour le faire vraiment, il va falloir justement qu'il s'intéresse justement à autrui, à celle qui n'était pas dans son camp, et même qu'il finisse par la défendre. C'est-à-dire un peu une espèce de transformation absolue qui va l'amener voilà, d'une côté d'une certaine forme de justice, en fait. Et puis pour la RDA, oui, moi ce qui m'a fasciné, c'est de voir que, bon, bien évidemment encore aujourd'hui, mais à l'époque, à la fin des années 80, il y a encore des intellectuels de bonne foi, parce qu'on pourrait envisager une certaine mauvaise foi liée à des intérêts très, très précis, mais il y a des intellectuels de bonne foi qui pensent que les aspects négatifs de la RDA était juste un moment nécessaire dans la lutte contre le capitalisme pour parvenir à vaincre et donc à amener le bien sur l'ensemble de la Terre. Alors on peut se dire que c'est très très difficile de maintenir une position comme ça, et pourtant il y en avait qui croyaient. C'est une espèce de l'ordre de la foi, quoi. Ceux qui croyaient vraiment complètement, à mon avis, à la fin, enfin, à la toute fin de l'Allemagne de l'Est, ils étaient quand même très méritants, hein, parce que le régime était quand même dans un état de déliquescence particulièrement avancé, et on voyait bien que de là ne sortirait pas du tout de progrès pour l'humanité. De la même façon en Union soviétique à l'époque. Donc, mais néanmoins, l'idée reste, et c'est ça qui est beau, c'est que l'utopie, elle n'est pas dans un endroit concret, justement, elle est dans un quelque part ailleurs. Et donc ce que promet le socialisme, c'est cet ailleurs, hein, ce qui viendra toujours ailleurs dans le temps, hein, qui viendra plus tard ou ailleurs dans l'espace. Voilà. Et c'est ça, moi, j'ai trouvé absolument fascinant, et dont on parle plus beaucoup aujourd'hui, c'est vrai. Et pourtant, c'est des millions d'hommes qui ont cru à cette possibilité-là.
Bon, merci. Je vais la petite histoire. Vous parlez de votre grand-père qui vous a apparemment marqué, tout ça, mais assez curieusement, je trouve que vous ne parlez pas de votre famille, de votre père, votre mère, du milieu dans lequel vous êtes. Que vous êtes né, je ne sais pas, enfin, de quel milieu c'était, et puis ensuite sur comment vous avez fait pour publier, etc., parce que c'est pas facile de trouver, je ne sais pas, un éditeur et tout ça, quoi. Et puis votre passion un petit peu pour l'Orient et tout ça, et puis un peu avec l'Allemagne et tout ça, qui est un peu curieux, que je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous parler d'un peu tout ça, quoi, je sais pas.
Vous voulez qu'on recommence? Alors, pour ce qui est de mon histoire personnelle, moi je suis un pur produit de classe moyenne. Ma mère, aujourd'hui à la retraite, était orthophoniste. Mon père travaillait dans le social. Et il n'y a rien de... C'est vrai que j'utilise pas trop de données biographiques ou autobiographiques dans mes livres, très rarement. Peut-être par une forme de pudeur, puis surtout parce que je pense que ça manque foncièrement d'intérêt, en fait, en vrai. Toutes les vies sont pas passionnantes. La mienne n'est pas vraiment, en réalité. À part, justement, ce qui raccroche un peu à un destin collectif, comme ce que pourrait être l'histoire de mon grand-père ou de ma grand-mère, que ça, si oui, je vais le raconter. J'ai déjà commencé un truc, mais je n'ai pas encore trouvé vraiment la forme de le faire. La forme pour le faire. Et puis ma passion pour le monde arabe, c'est peut-être justement parce que j'ai grandi dans l'ouest de la France, à Niort, que j'ai eu vite le goût des lointains. C'est peut-être quelque chose que je dois justement au très grand calme de cette région et de cette ville, que de m'avoir donné envie non seulement de lire pour me désennuyer, mais aussi de voyager et de partir loin. Et en fait, le monde arabe, c'était un rêve, mais j'y connaissais absolument rien. J'étais jamais allé. Mais la littérature arabe, les images que je pouvais en avoir me passionnaient. Et donc, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à apprendre l'arabe. Et là, oui, j'ai passé pas mal de temps, principalement au Moyen-Orient. Et puis, pour la... c'était quoi
la publication, la publication. Comment vous êtes arrivé à publier?
J'ai envoyé mon livre par la poste. Il n'y a rien de... Alors, moi, j'avais ce rapport justement au monde arabe. Et comme le roman s'intéressait à la guerre civile libanaise, et qu'il avait... Il devait beaucoup à d'autres auteurs libanais qui avaient évidemment écrit sur ce sujet, et que tous ces auteurs étaient publiés dans la même maison d'édition française qui s'appelle Actes Sud, je me suis dit, je vais envoyer mon manuscrit à Actes Sud. Et j'étais tout à fait persuadé que ça ne pouvait que aller là. Et donc j'ai reçu une lettre, quand j'ai envoyé mon manuscrit, qui m'a dit, si dans 3 mois vous n'avez pas de nouvelles, ce manuscrit s'autodétruira dans nos caves. Et c'est ce qui s'est produit, j'avais pas de nouvelles. Mais j'étais naïf. Et donc je me suis dit, c'est qu'ils ne l'ont pas lu. Je vais le renvoyer. Et je l'ai renvoyé une seconde fois en mettant cette fois-ci un nom sur l'enveloppe. Et là, ça a marché. Donc, oui, comme quoi il faut persévérer.
Croyant la poste.
Oui, voilà. À l'époque, il y avait des postes, il y avait des timbres, tout ça. Et des... ouais. Maintenant, je pense qu'on envoie plus les manuscrits par mail. J'en sais rien, mais à l'époque, c'était encore entièrement en papier. Donc, ça faisait des tonnes et des tonnes de papier. Donc, voilà, ça s'est passé tout simplement comme ça.
Oui. Attendez, le micro arrive.
Ok, merci professeur. Vous avez tout parlé de les mains de l'Est, puis le Liban, la Syrie, et puis l'Ukraine aussi. Ok, merci. Alors, la toute petite question que je voulais poser, et par rapport à vos lecteurs, quel impact que vous avez eu, disons, de vos lecteurs, et comment est-ce que vous le citiez? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vous lisent, beaucoup plus d'hommes? De quelle classe? Est-ce que c'est des universitaires? Est-ce que c'est les grands publics? Comment est-ce qu'ils ont analysé vos romans? Comment est-ce qu'ils ont critiqué? Quel était leur vœu? Voilà, je ne sais pas si vous pouvez nous clarifier ça.
Merci, merci. Ça, c'est absolument fascinant comme question, même si ce n'est pas facile d'y répondre. C'est parce que, qu'est-ce que c'est... comment est-ce que moi, je peux savoir exactement qui me lit? Mais en fait, je ne peux pas. On sait combien on vend de livres, plus ou moins, mais on ne sait pas combien de personnes en lisent d'abord. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent lire un même livre. Et ensuite, on peut avoir des statistiques tout à fait générales sur... combien de femmes lisent des livres, combien des hommes lisent des livres, mais pas sur un livre concret et précis. C'est extrêmement difficile de savoir. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On voit à peu près les gens quand on les rencontre. C'est-à-dire que j'ai la chance de pas mal être invité dans des librairies en France pour parler de mes livres. Et là, on rencontre dans les salons du livre, on rencontre des lecteurs ou des lectrices qui vous disent « Ah, j'ai aimé celui-ci, j'ai pas aimé celui-là. » Mais on ne sait pas vraiment, en fait, hein, ni qui ils sont, ni pourquoi est-ce qu'ils apprécient vos livres ou pas, sauf dans un cas très précis qui est le lycée ou le collège. Où là, on force une classe entière à lire un de vos livres, généralement court, Et là, vous avez vraiment les réactions d'à peu près toutes. Mais c'est des gens qui sont par définition jeunes, qui n'ont pas lu beaucoup, beaucoup de livres et qu'on force à lire un livre. Donc, ça ne donne pas toujours les réactions souhaitées. Il y en a qui peuvent aimer le livre, d'autres que ça laisse totalement indifférent, et d'autres qui peuvent détester, être obligés de lire ce truc-là. Donc le lecteur est par définition un peu insaisissable, en fait, hein, le lecteur ou la lectrice. Mais j'ai l'impression que c'est un peu chaque livre qui... Mes livres sont assez différents, et donc mes lecteurs et mes lectrices sont assez différents aussi. Et il y a à la fois des gens jeunes pour certains livres, des gens plus âgés pour d'autres, mais c'est toujours assez divers selon ce que raconte en réalité le roman, ce qui est tout à fait logique aussi. Et puis après, il y a des lecteurs qu'on croise, qu'on connaît depuis longtemps, qui reviennent et qui, eux, ont une autre vision. Ils s'intéressent à l'œuvre, au sens où ils s'intéressent à... Ils sont curieux de voir ce que je vais faire après. Ils lisent un livre, ils disent « Alors, on attend le prochain avec impatience. » Parce qu'ils veulent, c'est une espèce de curiosité de se dire, un peu comme, voilà, comme on attend une chanson ou ouais, un prochain disque d'un chanteur. Donc il y a vraiment énormément de cas de figure très différents. Et c'est vrai que c'est la partie un peu, finalement, le lecteur ou la lectrice, c'est la partie la plus, presque la plus mystérieuse du métier, quoi.
Pardon, je me permets d'ajouter une question corollaire. Est-ce que vous, quand vous écrivez, vous avez en tête une espèce de lecteur ou de lectrice imaginaire rêvé, une espèce d'adresse?
Non, pas du tout.
Ou un de vos camarades auteurs je sais par exemple que quand Patrick Deville, Jean Echenoz et les Roland écrivent, ils ont un petit peu les uns les autres en tête. Ils s'envoient des balises. Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous adressez de manière un peu générique ou vous avez quelqu'un en tête?
Non, j'ai pas vraiment de lecteur imaginaire. Non, je... C'est quelque chose qui n'est pas présent dans l'écriture, en fait. Bien sûr, il y a forcément plus ou moins un destinataire de ce qu'on est en train de faire. Mais je pense à mes traducteurs, parfois. Ça, oui.
C'est le début de la postérité, ça.
Oui, je pense à mes traducteurs parce que je me dis, alors là, tu vas en baver. Hein, là. Et, parce que certains sont des amis proches. Et je me dis, oh là là, là, ça va pas être facile. Mais c'est à peu près tout, ouais. J'ai pas vraiment de lecteur concret en tête, non.
Très se lancer dans la littérature, notamment tout ce qui est autour de l'histoire.
Moi, je pense que le premier conseil, c'est qu'il faut lire.
D'accord, je vois.
Premier conseil, c'est qu'il faut lire, lire et lire. Et après, qu'il faut... essayer de perdre la peur qu'on a à écrire et essayer de gagner de la confiance en soi. Et il ne faut pas renoncer, quoi. C'est très facile, parce qu'il y a des moments pénibles dans l'écriture. C'est pas une espèce d'immense passion qui vous emporte comme ça pendant des mois sur 500 pages où chaque jour vous êtes genre... Oh. Non, il y a des moments où c'est ardu, quoi, tout simplement. C'est comme ce qui demande vraiment de la régularité. C'est comme quand il pleut, vous n'avez pas envie de sortir faire votre jogging, pourtant vous le faites. Bon, voilà, il y a des matins comme ça hein, dans l'écriture aussi. Des matins où il pleut, des matins où il fait froid. des matins où on se sent absolument nul, où on dit qu'est-ce que c'est que ça que je suis en train de faire, bref. Et il faut passer outre, persévérer en fait. Et puis voilà, se faire confiance, persévérer. Et persévérer tant qu'il y a du désir, de la passion. Si ça vient juste de l'amertume et de la souffrance, peut-être qu'il y a un moment où il faut se dire bon, c'est pas pour moi. Mais non, je pense que c'est. Voilà, d'abord, lire beaucoup. Et pendant qu'on lit beaucoup, essayer d'écrire le plus possible et d'avancer voilà, sans peur. Et avec une certaine constance, quoi.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
J'avais aussi une petite question. En tant que lectrice régulière et en tant que grande lectrice, on se permet quelquefois d'écrire de temps en temps quelques petits textes, pourquoi pas commencer un roman, mais on a souvent tendance à vouloir à tout prix se reconnaître dans ce roman et donc par conséquent à parler de soi. Donc moi ma question c'est comment se détacher de ses œuvres et de vraiment produire quelque chose qui soit nouveau.
Alors c'est pas parce qu'on parle de soi que c'est pas forcément nouveau, mais je comprends ce que vous voulez dire au sens où c'est peut-être justement là où il faut commencer à avoir un projet, c'est-à-dire non plus d'écrire comme ça au jour le jour des trucs qui peuvent vous venir, voilà, mais de construire vraiment un projet en disant mais je veux raconter quoi en fait, qu'est-ce qui m'intéresse, je veux aller de là à là, comment, je veux que ça commence comme ça et surtout que ça finisse comme ça. Et une fois qu'on a un projet comme ça, quelque chose qui ressemble un peu à une maquette imaginaire de ce que pourrait être un roman futur, là, on sait qu'on peut avancer vers quelque part et on va s'éloigner de juste des notations qui seraient de l'ordre un peu du journal intime ou de se parler à soi-même. Non, là, on va vers un autre projet qui, justement, parce qu'il est un peu construit, peut prendre une autre dimension, à mon avis. Le vrai problème, c'est on se dit, bon, alors aujourd'hui, je vais écrire. Bon. Puis on se met devant l'ordinateur. Et en fait, on n'a rien à dire. C'est normal. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on sache ce qu'on va écrire. Donc, il faut que ce soit à l'intérieur d'un projet dans lequel on a réfléchi à des lieux, des personnages, des actions, tout ça. Même si c'est juste dans la tête, en rêve, en prenant trois notes sur le téléphone. Mais au moins, ça fait un espèce de plan, un peu comme une carte d'un monde dans lequel on va pouvoir développer son récit, ses histoires, ses personnages, et on sait où on va. Et là, quand on s'assoit devant l'ordinateur, ben on sait. On dit, aujourd'hui, ah, il faut que j'écrive ça. Et c'est ça qui est vraiment, je pense, important dans le... Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui se découragent parce qu'ils disent, ouais, mais je sais pas quoi écrire. Mais ben, non, c'est normal. Moi-même, si je savais pas quoi écrire... Rien ne me viendrait. Il n'y a pas une espèce d'opération magique comme ça, d'inspiration qui vient. Oh. Non, c'est qu'il faut qu'on ait un peu conscience de ce qu'on est en train de faire. Et pour ça, le mieux, c'est quand même de préparer un peu les choses, même si c'est juste dans sa tête. De dire, bon, mais je veux aller là, j'aimerais bien raconter ça. Et puis, il y a aussi un peu commencer par le bref, quoi. Envisager un roman, c'est long, ça demande quand même pas mal de temps, une certaine constance justement. Pourquoi pas envisager un petit récit d'abord, 20-30 pages, qui justement en se donnant un peu des contraintes, en se disant bon, je veux pas que ça parle de moi, je veux que ça parle de telle ou telle ou telle chose qui m'intéresse, que ce soit loin, proche, ça c'est pas la question, mais se donner un premier petit projet comme ça. Et puis on est content parce qu'on se dit ah voilà, ça j'ai réussi à le faire. Bon, on se relit et le surlendemain et on dit oh, putain, c'est nul. Bon, on passe à autre chose, on efface et voilà. Mais on avance quand même. Et c'est là où je parlais de persévérance, c'est de se dire bon, je trouve pas ça abouti, je trouve pas ça bien, mais j'ai quand même terminé quelque chose et terminé dans des termes que je me suis choisi moi. Et donc après, quand on a des projets plus amples, plus ambitieux, en se disant bon. Là, je pense que je peux commencer. J'ai la possibilité de pouvoir finir, en fait. C'est ça qui est important. Hein. Commencer un roman, on peut tous le faire. Le finir, c'est plus compliqué. Et pour ça, c'est bien d'avoir voilà, un projet, en fait, quelque chose qui vous aide, sur lequel on peut s'appuyer. Je me souviens, c'était Philippe Djian, un romancier français, qui disait ça dans un livre. Un livre qui s'appelle Échine, qui n'est pas un roman très connu de Philippe Djian, mais où il y a cette métaphore. C'est souvent des personnages d'écrivains lui qui l'utilisent. Et donc là, c'est un écrivain qui dit écrire un roman, c'est comme faire décoller un très très gros avion. Quand on voit l'avion arrêter sur la piste, on dit que ça n'a aucune chance de se produire. Aucune. Cette chose énorme ne peut pas s'envoler. Et pourtant, en lui donnant de la vitesse, en le lançant, en le mettant sur la piste, ben, ça finit quand même par voler. Et ça peut vous emporter très très loin. Donc ça, c'était une, je me souviens, moi, une métaphore qui m'avait beaucoup aidé quand j'étais quand j'avais encore rien écrit et que je me disais que j'y arriverais jamais. Je me dis, ouais, c'est un peu comme ça quand on voit un avion comme ça, on dit qu'il y a vraiment peu de chances de décoller, quoi.
On dit une dernière question. Une dernière question.
Dans le prolongement de la question sur le lectorat, je me suis demandé si vous lisiez les critiques des littéraires, enfin, le Monde des Livres, Transfuge, est-ce que vous en faisiez, si ça vous aidait ou si ça vous blessait ou si vous ne lisiez pas, certains auteurs ne lisent pas.
Ouais, alors...
Et ça, c'est la première. Et la deuxième question, c'est, je vous entends sur France Culture, sur l'entretien, donc je trouve, on oublie tout, on écoute, dans la construction de l'émission. Et je me suis demandé si, à un moment donné, la structuration de l'émission, il y avait une similitude à faire sur la structuration de vos romans.
Et alors, pour commencer par la fin, non. Non, c'est plutôt une similitude avec la construction du roman de celle ou celui que je suis en train d'interviewer. C'est plutôt le roman en question qui guide la façon dont moi je vais conduire mon entretien. Après... Raphaël, est-ce que vous pouvez vous boucher les oreilles?
Voilà.
Les critiques littéraires qui, sur mes propres livres, je ne les lis pas vraiment. Je les survole comme ça. D'abord, ça me fait un peu, je sais pas, ça me fait une sensation un peu étrange, mais j'ai la chance d'avoir une attachée de presse absolument magnifique qui me raconte, il s'est passé ça, ça, il y a ça, je te l'envoie, je regarde, j'ouvre un peu le PDF, je regarde, j'ai pas, mais il y a toujours des gens pour vous dire. Mais c'est vrai que c'est pas mes textes préférés, c'est pas les critiques qui parlent de mes livres. Ça veut pas dire que j'ai la chance que, enfin, d'avoir d'excellentes critiques. Donc c'est pas une question qui disent du bien ou du mal, c'est pas ça. Mais je sais pas, ça touche un peu. Oui, ça doit me toucher, et donc je préfère pas trop lire, même si voilà, j'aime pas trop les compliments ni tout ça. Je lis pas vraiment. Je vous en prie.
Bien, merci beaucoup, Mathias. Merci à toutes et tous, et bonne soirée.
Merci, merci. Au revoir. Merci.